Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors ça y est, après des années entières à se mesurer, à se défier, la guerre entre les réseaux sociaux américains et le président des États-Unis a finalement éclaté suite aux graves événements du Capitole, Brice.
Eh oui, Donald Trump est définitivement interdit de séjour sur Facebook et sur sa filiale Instagram, banni de YouTube et Twitter, dont il a fait un usage trépidant, a supprimé définitivement son compte. Le président sortant était pourtant un bon client. Ce réseau social a été pour lui le moyen idéal de contourner les grands médias légitimes qui lui étaient majoritairement hostiles. Avec 88 776 000 followers, il était l'une des 5 personnalités les plus suivies du monde. Beaucoup de ceux qui se sont indignés à juste titre des attaques répétées de Trump contre les institutions démocratiques se réjouissent. Enfin muselé le matamor populiste. Malhonnête au point de refuser d'avaliser la victoire éclatante de son rival, 306 grands électeurs pour Joe Biden contre seulement 232 pour Trump, ce qui correspond à 81 millions de bulletins de vote pour le premier contre 74 millions pour le second. Mais justement, 74 millions d'Américains ont glissé dans l'urne un bulletin au nom de Donald Trump. Comment peuvent-ils réagir à la décision des manias milliardaires des grandes compagnies numériques d'interdire de parole leurs candidats ? Au nom de quoi, messieurs Mark Zuckerberg et Jack Dorsey, peuvent-ils priver les fans du Donald de ces messages en rafale ? Il y a deux façons de raconter cette histoire, écrivait hier sur le site de The Atlantic, Evelyn Dweck, qui travaille au sein d'un cabinet de conseil en Internet affilié à l'université de Harvard. La première, celle dont les plateformes voudraient nous convaincre, c'est qu'elles ont des règlements, qu'ils sont politiquement neutres et que Trump les a enfreints. En particulier en appelant ses supporters à se rendre au Capitole pour tenter d'intimider les membres du Congrès le jour même de la certification des résultats des élections. Mais cette version est qualifiée de « feuille de vigne » par cette spécialiste. La vérité, écrit Evelyn Dweck, c'est qu'un groupuscule minuscule au sein de la Silicon Valley extrêmement puissant a été poussé par ses propres employés au bord de la falaise et prié de sauter. Ce n'était pas la reconnaissance d'une culpabilité, mais une extraordinaire manifestation de puissance, écrit-elle encore. Dorénavant, un petit groupe de gens de la Silicon Valley définit ce que doit être le discours moderne. Ils fixent ostensiblement les limites d'une quatrième dimension où les règles tiennent à la fois de la bonne gouvernance démocratique et du journalisme, et ils le font de la manière qui leur convient.
Oui, et ainsi le porte-parole officiel des talibans ou le président nationaliste Narendra Modi, président indien, reste bienvenu sur Facebook. Le président philippin, Rodrigo Duterte, peut continuer à y insulter nommément des journalistes. Mais Donald Trump, lui, est interdit de séjour. Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant, Brice ?
Bah, ce qui a changé, c'est que Trump va perdre le pouvoir et que le Sénat, qui inquiétait les oligopoles du numérique, va passer aux démocrates. Comme le rappelle Mathieu Slama sur le Figaro Vox, je le cite, « Cela fait des mois que Trump est en guerre contre les GAFAM. C'est sous son mandat que l'autorité de la concurrence américaine a annoncé poursuivre Facebook en justice en demandant à la Cour d'envisager une séparation avec ses filiales Instagram et WhatsApp. C'est sous son mandat que le ministère de la Justice et 11 États américains ont déposé une plainte contre Google pour abus de position dominante dans la recherche de publicité en ligne. C'est encore sous son mandat que la FTC a condamné Facebook à 5 milliards de dollars d'amende pour avoir autorisé en 2018 la firme de conseil britannique Cambridge Analytica à puiser dans les données de quelques 50 millions de ses utilisateurs sans le leur notifier. D'où l'impression désagréable que sous prétexte de défendre les institutions américaines, les oligopoles numériques règlent leurs comptes avec un pouvoir qui a tenté d'entraver leur irrésistible progression. Comme l'explique Aurélie Lutrin, la patronne de CWIC, les GAFAM, ces géants monopolistiques plurisectoriels, constituent dorénavant une menace pour la démocratie. Pas seulement parce qu'ils tendent à polariser l'opinion avec leurs algorithmes, mais parce que leurs patrons partagent des idéologies bien précises, comme le transhumanisme, et que dans leur délire mégalomaniaque, je la cite, ils se comportent comme des criquets, détruisant toutes les entreprises qui auraient pu leur disputer une partie de leur empire. Les compagnies privées qui contrôlent dorénavant l'essentiel du débat public se présentaient comme des espaces de neutralité politique sans ligne éditoriale. Nous savons à présent qu'elles défendent non seulement des idées, mais aussi des intérêts. Comme l'a tweeté hier la députée La République En Marche, Aurore Berger, je la cite, « On peut combattre Trump et le chaos qu'il a entraîné, mais refuser de se réjouir de voir les GAFA décider seuls, sans contrôle du juge, sans recours possible, quel président en exercice a le droit d'avoir un compte sur Twitter ou non ?» Et le député La France Insoumise, François Ruffin, est sur la même ligne. Je le cite, « Trump, c'est pas ma tasse de thé, mais la fermeture désormais définitive de son compte par Twitter me paraît scandaleuse. Doit-on déléguer notre liberté d'expression aux géants de la Silicon Valley ? Demain, ce sera pour nous tous cette censure numérique et privée. »
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr et puis également sur l'application Radio France. On se retrouve demain, Brice.